Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Oui, faisons un voyage ensemble, Mathieu, en plein cœur des États-Unis à l'aube du 19e siècle. Des dizaines de millions de bisons cavalent dans les grandes plaines d'Amérique du Nord, entre le Mississippi et les montagnes rocheuses. Derrière eux, des hommes, la peau rouge, des plumes sur le haut du front, chevauchent à leur poursuite. Ce sont les Sioux, indiens qui règnent sur ces plaines et chassent l'animal car ils mangent du bison, portent des vêtements et des chaussures en bison et dorment dans des tipis
en bison. En bison.
Outre les bisons, les Sioux affrontent régulièrement d'autres tribus indiennes, comme les Crows. Mais leurs plus grands ennemis, ce sont les Oisichoux, les Blancs, qui colonisent leurs terres. Un Sioux va se distinguer dans la révolte contre l'envahisseur, on le surnomme Bison Assis. C'est dans l'actuel Dakota du Sud que le jeune membre de la tribu des Sioux, Dakota, voit le jour en 1831. Formé comme guérisseur, homme médecine, comme on dit aussi, il combat un Crow à l'âge de 14 ans, ce qui lui vaut le surnom Tatanka Iyotake ou Sitting Bull, ainsi qu'une plume. Le surnom semble peser plus lourd que la plume. Eh bien, il n'en est rien. Parce que chez les Sioux, voyez-vous, se coiffer d'une plume signifie que l'on a accompli un acte de bravoure. Pas la plume de n'importe quel volatile, ce sont des aigles qu'arborent les aborigènes d'Amérique. L'aigle représente la sagesse et le pouvoir. Il est proche du créateur car vole près de lui. Les plumes sont peintes, taillées ou encochées suivant l'exploit réalisé. Les grands chefs portent des panaches de plumes qui peuvent descendre jusqu'aux pieds. Coiffé de ses actes de bravoure, Sitting Bull devient vite le chef de sa tribu et étend le territoire de chasse vers l'ouest. Mais en ce milieu du 19e siècle, le paysage change radicalement. Les Blancs traversent leurs terres en masse. Sont-ils désolés de piétiner les terres des Sioux? Point du tout. Dans leur esprit, ils sont chez eux et n'ont aucun espoir de civiliser cette bande d'Indiens. Alors forcément, les échauffourées se multiplient dans les années 1860. Sitting Bull, secondé par Crazy Horse, ne vous précipitez pas Mathieu, le cabaret du même nom arrivera bien plus tard.
Ah oui, mais c'est lui qui l'a inspiré,
Oui, bien sûr, multiplie les raids. Les Blancs, de leur côté, déclarent la guerre aux bisons. Des millions d'animaux sont supprimés, les plaines sont recouvertes de carcasses en putréfaction. En 1868, les Sioux acceptent de faire la paix avec le gouvernement américain. Le second traité de Fort Laramie leur garantit une réserve dans le sud-ouest du Dakota du Sud. C'est confirmé. Les Black Hills, leur terre sacrée, là où reposent les âmes de leurs ancêtres, leur appartiennent. Mais vous savez, Mathieu, les traités de paix entre colons et indiens n'ont jamais duré très longtemps. Surtout qu'après la crise financière de 1873, le président américain Grant estime que l'économie a besoin d'or en abondance. C'est la ruée vers l'or. L'année suivante, on en trouve dans les Black Hills. 15 000 Blancs occupent alors le territoire des Sioux, violant le traité de paix sans vergogne. En 1876, la coupe est pleine. Sitting Bull réplique en coalisant les nations indiennes des Grandes Plaines contre ces faces de chiens qu'il appelle ainsi en raison de leur barbe. De son côté, le général George Armstrong Custer prend la tête du 7e régiment de cavalerie. À 36 ans, ce héros de la guerre de sécession est impatient de rehausser son prestige militaire déclinant. Le haut commandement qualifie Sioux et leurs alliés Cheyennes de nègres rouges, voleurs, ivrognes et bien sûr de sauvages. Au Montana, Sitting Bull prépare la guerre en dansant pendant 36 heures après s'être fait prélever 50 morceaux de chair sur chaque bras. Oh. La victoire, ça se mérite. Hein. Et la vision qui s'offre à lui après cette sacrée cérémonie la lui promet. Dimanche 25 juin 1876, au matin, les éclaireurs du 7e régiment de Custer repèrent Sitting Bull dans la gorge de la rivière Little Bighorn. Les Crows qui combattent aux côtés des Américains préviennent Custer. Les Sioux sont bien trop nombreux. Le carnage démarre. Malgré leurs armes à feu, les soldats de Custer sont chassés comme des bisons à coups de massue, de couteaux et de flèches par les Sioux. Leurs cadavres sont ensuite mutilés, décapités, castrés et bien sûr scalpés. Parmi eux, le corps de Custer. Les Sioux ne le savent pas, mais ils viennent de tuer leur plus célèbre ennemi. Sitting Bull, victorieux bien qu'il n'ait pas pris part à la bataille, en même temps avec les deux bras mutilés, c'était un peu compliqué, craint les représailles. Il fait bien. Le général Miles se lance à ses trousses. Après des combats épuisants et des tentatives de paix ratées, les Sioux franchissent la frontière canadienne avant l'hiver. Sitting Bull les rejoint au printemps suivant. Ils s'y lient d'amitié avec le major James Walsh de la police montée du Nord-Ouest. Ce dernier assure leur protection en échange du respect des lois canadiennes et de l'absence de raids de l'autre côté de la frontière. Lors d'une rencontre avec un général américain, Sitting Bull fume son calumet jusqu'à ce que la pièce empeste avant de se lever et de déclarer « Nous n'avons pas donné notre pays. Vous vous en êtes emparés. Emportez avec vous vos mensonges. Je resterai avec ce peuple. Le pays d'où nous venons nous appartenait. Vous nous l'avez pris. Nous vivrons ici. » Mais la situation ne peut s'éterniser. Le Canada est sous pression et les Sioux manquent de bisons. Les Américains déclenchent des incendies à la frontière pour empêcher les animaux de migrer au nord. Le peuple de Sitting Bull se retrouve contraint de manger ses chevaux et ses chiens. Il faut rentrer au pays. Lors de sa dernière rencontre avec Walsh, Sitting Bull lui offre sa coiffe de plumes. Il sait qu'il n'en aura plus besoin. Le chef Sioux est fait prisonnier de guerre jusqu'à ce que le gouvernement cesse de le considérer comme une menace. C'est alors que Sitting Bull rejoint Buffalo Bill.
La naissance des fameux Boulet Bill, Stéphane.
En 1885, non, Sitting Bull participe aux tournées du Wild West Show, ces drôles de spectacles itinérants qui font revivre le mythe de la conquête de l'Ouest. Ancêtres des westerns, ils ont un succès fou. Sitting Bull aussi. Le jugeant trop populaire et imprévisible, les autorités américaines lui ordonnent de retourner dans sa réserve de Standing Rock dans le Dakota du Nord. Depuis Standing Rock, Sitting Bull se bat contre les manigances du gouvernement qui extorquent des terres aux Indiens. En 1890, les allocations sont supprimées et les Indiens ont interdiction de chasser. La faim et le désespoir donnent naissance à un mouvement religieux, la danse des esprits qui promet une revanche sur les Blancs. Craignant un soulèvement, le général Miles ordonne l'arrestation de Sitting Bull. Pourtant non converti au mouvement, le chef des Sioux Lakota est coupable de l'avoir toléré. La tâche incombe à la police indienne, formée de Lakotas qui se sont retournés contre leur chef. Mais l'arrestation de Sitting Bull, qui se déroule d'abord dans le calme, prend une autre tournure. Lorsque Crowfoot, le fils du chef Sioux, crie à son père qu'il ne devrait pas se laisser faire, les coups partent. Sitting Bull reçoit une première balle, puis une deuxième derrière la tête. Il s'effondre sur le sol enneigé, mort. Les Sioux s'enfuient par crainte d'être tués à leur tour. Deux semaines après la mort de leur chef, ils installent leur campement à Wounded Knee, en Dakota du Sud. Mais le 7e régiment, l'ancien régiment de Custer, se mobilise de l'autre côté de la colline. La cavalerie encercle les Sioux et les soldats installent quatre canons à feu roulant avec des obus explosifs, l'arme la plus récente de l'arsenal américain. Si l'enfer existe, il doit ressembler au champ de bataille de Wounded Knee. Les Indiens sont massacrés. Les cadavres des femmes et des enfants de la tribu Lakota jonchent le flanc de la colline. Le premier jour de l'an 1891, les soldats jettent les corps dans une fosse commune et se font photographier devant pour la postérité. Les récompenses pleuvent. Jamais autant de médailles d'honneur n'avaient été attribuées pour un seul combat. La mort de Custer est vengée. Wounded Knee sonne le glas des guerres indiennes dans les grandes plaines.
Europe 1. Historiquement vôtre.